Alors, on est tout début du ministère de Jésus, donc qui part au désert pour être tenté par le diable, et on est au début aussi de notre carême. Et on voit qu'il y a trois tentations, au fond, qui sont importantes de travailler. La première tentation, ayant jeûné 40 jours, il eut faim, on peut le comprendre, hein, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est tout ce qui est source de plaisir en nous, que ce soit plaisir de la bouche, que ce soit plaisir de la sexualité, tout ce qui est lié au plaisir du corps. Et puis la deuxième tentation, c'est tout ce qui est lié à l'orgueil de l'esprit. Le démon l'emmène au-dessus du temple, au sommet du temple, situé le fils au-dessus le lieu de la transcendance. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici là en bas. Eh bien voilà, c'est une manière de dire, au fond, je me mets au-dessus de Dieu. L'orgueil de l'esprit, qui fait que je ne reçois d'ordre que de moi-même. Je suis dans ce qu'on appelle un autoréférencement, c'est-à-dire que c'est moi-même qui suis ma propre loi, ma propre logique. Je n'en accepte pas d'autre. Et puis, la troisième tentation, c'est la tentation des richesses. Si tu te prosternes devant moi, ben, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leurs richesses. Voilà, de tout ce qui est lié à la possession, à l'argent. Et on voit, j'allais dire, d'une certaine manière, on peut dire que rien de nouveau sous le soleil, parce que quand on voit les scandales politiques, par exemple, ou les scandales de nos sociétés, ou les réalités géopolitiques du monde au niveau international, etc., on retombe sur un de ces trois aspects, une de ces trois tentations, soit des abus sexuels sur des personnes, soit des gens qui se prennent pour le roi du monde et donc veulent imposer leur loi aux autres, soit des gens qui détournent de l'argent public, par exemple, voilà, et pour leur propre finalité, leur propre consommation. On voit bien qu'il y a, au fond, ces trois manières d'être tenté. C'est ce qu'on appelle les trois concupiscences aussi, vous entendrez parler ça. C'est trois formes de toute puissance. Ces trois formes de toute puissance. La toute puissance de la chair, la toute puissance de l'esprit, la toute puissance des richesses. Et c'est intéressant de voir que Jésus commence par là, et à chaque fois, il répond avec la parole de Dieu. Hein, l'homme ne vit pas seulement de pain, voilà, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Mais le démon aussi connaît sa Bible, j'allais dire, et le tente. Il y a une lecture démoniaque de la parole de Dieu, puisqu'il le tente, hein, il donnera pour toi des ordres à ces anges, il utilise la parole de Dieu pour le tenter, et lui répond par la parole de Dieu. Mais donc c'est intéressant de voir comment Jésus répond et à chaque fois, et est-ce que c'est pas aussi, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tentés par une de ces trois toute-puissances, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein, certains sont plus fragiles sur des questions d'argent, d'autres des abus de pouvoir, etc., etc. Voilà, donc de dire, tiens, comment déjà, premièrement, débusquer en nous, qu'est-ce qui serait de l'ordre du combat spirituel que j'ai à livrer? Parce que ce combat spirituel, Jésus l'a livré pour nous. Hein. Et de se rappeler aussi que la tentation est toujours dans l'imaginaire. C'est l'imaginaire, c'est le démon qui nous tente par l'imaginaire. Si je vole de l'argent qui n'est pas à moi, ben voilà, je serai plus heureux. Si je commets l'adultère, je serai plus heureux, etc. Il y a toujours une promesse de bonheur derrière le péché, ne l'oublions pas, et derrière la tentation. Mais une fausse promesse de bonheur, puisque ensuite ça aboutit au fond à la désolation et à la rupture avec Dieu et avec les hommes. Donc je trouve ça intéressant de dire, tiens, nous-mêmes, où est-ce qu'on en est de ce combat intérieur? Quelle de ces trois tentations, de ces trois toute-puissances nous touche? C'est intéressant de voir que Jésus, on l'a écouté au moment de la mercredi des cendres, quand il enseigne ses disciples, il parle du jeûne, de l'aumône et de la prière. Et vous ferez le lien avec les trois tentations. Le jeûne pour tout ce qui concerne le corps, l'aumône pour tout ce qui concerne l'argent, la prière pour tout ce qui concerne la toute-puissance de l'esprit, de se priver de Dieu, de se mettre soi-même comme référence, seule référence, au-dessus du Seigneur. Voilà, c'est quand il enseigne ses disciples, de cette manière, il enseigne lui-même ce qu'il a vécu on peut dire sa propre chair, en tout cas dans sa propre expérience au désert, il l'enseigne ensuite aux disciples. Et c'est intéressant de voir que dans la vie religieuse, d'une certaine manière, répond aussi à ces trois tentations. Vous le savez, les trois vœux religieux de pauvreté, chasteté, obéissance, eh bien, vous avez, c'est ce qu'on appelle des conseils évangéliques. C'est intéressant. C'est tous ceux qui veulent vivre l'évangile ont une certaine sobriété, comme disait le pape François, il aimait bien employer ce mot, une sobriété dans l'usage des biens, une certaine chasteté, c'est-à-dire une distance par rapport non seulement au corps de l'autre, mais à la personne de l'autre, je n'ai pas. Et puis aussi une obéissance à la parole de Dieu. Donc on voit bien que c'est intéressant de voir que la vie religieuse reconnaît ces trois toute-puissances, et si les religieux, religieuses font, ils en font, alors. Dans la vie religieuse, c'est particulier par rapport aux autres qui veulent vivre les conseils évangéliques, c'est que la vie est structurée comme ça. On fait profession religieuse. On en fait une profession, hein, de la lutte contre les tentations, etc., à travers ces trois outils qui nous sont donnés, qu'on appelle les trois vœux religieux, mais qui sont, en fond, des conseils évangéliques, hein, et donc dont chacun peut s'emparer selon son état de vie, en fonction de sa situation, pour poursuivre le Seigneur. Et donc de dire, tiens, c'est intéressant de voir que la vie religieuse, elle donne au fond une espérance. Elle est vecteur d'espérance, précisément parce qu'elle dit, vraiment, elle reconnaît le combat. Et religieux et religieuses disent à ceux qui ne sont pas consacrés, ben, nous aussi, nous avons des combats. Nous aussi, nous avons des combats. Si nous faisons profession de pauvreté, chasteté, obéissance, c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est une de ces trois, ou les trois de toute puissance, forme d'orgueil, nous touche. Et puis ensuite, ça donne une espérance, parce qu'au fond, c'est à travers la pratique de la pauvreté, de la chasteté, de l'obéissance, il y a une manière de déraciner en nous, voilà, de ce qui peut être à l'origine du mal, ce qui peut être. Et on voit bien, en fonction des époques du religieux, de la religieuse, c'est l'une ou l'autre de ces conseils évangéliques, de ces vœux qui sont peut-être plus difficiles à vivre. Mais bon, toujours est-il que de dire, tiens, je vis aussi ce combat-là, et ça c'est très fort dans la vie religieuse, je le vis pour d'autres. Je le vis pour d'autres. C'est-à-dire, je vis pour d'autres ce combat pour rester chaste, pour rester modeste dans l'utilisation des biens, pour rester obéissant à la parole du Seigneur et obéissant au supérieur, parce que c'est comme ça aussi qu'il y a un lieu de vérification dans la vie religieuse. Hein, donc, du coup, quand on est supérieur, je fais toujours très attentif, voilà, avant d'invoquer l'obéissance, parce que on invoque quelque chose de très fort. Mais bon, il faut parfois l'invoquer, et c'est un vrai soutien pour l'autre. Mais du coup, c'est intéressant de dire, tiens, nous vivons aussi ce combat pour d'autres. Comme religieux, religieuses, nous portons dans notre consécration le combat spirituel de l'humanité, parce que toute personne, baptisée ou non, est soumise à ce combat spirituel contre la toute-puissance de la chair, la toute-puissance des richesses et la toute-puissance de l'esprit. Alors, on va demander au Seigneur vraiment cette grâce particulière d'être attentif à ça dans ce carême, de dire, tiens, justement, ce décentrement de soi-même, hein, c'est cette opération de décentrement de soi-même que nous faisons, pour dire, voilà, les tentations que je vis, oui, je suis dans un combat intérieur, un combat spirituel, je prends les moyens qui me sont donnés par l'Église, par la parole de Dieu pour lutter, comme les sacrements, comme la parole de Dieu, comme les vœux, ou en tout cas les conseils évangéliques pour ceux qui ne sont pas consacrés. Je prends les outils qui me sont donnés, hein, pour pouvoir, au fond, être plus fidèle comme disciple de Jésus, hein, de suivre le Seigneur de façon plus forte. Alors je trouve que c'est une belle manière d'entrer dans ce carême en disant, voilà, ce combat-là, certains le vivent par profession, hein, pour d'autres, se consacrent d'une certaine manière à donner à d'autres la possibilité de réussir, de vaincre, gagner des victoires intérieures contre l'esprit du mal grâce à leur consécration. Et ça, je pense que ça, on le verra au ciel. On le verra au ciel. Il y a beaucoup de choses qu'on doit à la consécration religieuse, religieuse d'un prêtre, etc., de sa fidélité malgré les embûches du quotidien, etc. parce qu'il a été fidèle et parce qu'il nous a mérité d'une certaine manière aussi la grâce de nous-mêmes de lutter et de ne pas nous laisser emporter par l'esprit du mal.